Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin.
Au début du conflit entre Israël et le Hamas, il y avait des craintes qui étaient répétées un peu partout dans le monde, exprimées aussi par autant par la population que par des gouvernements, que ce conflit devienne régional et devienne plus gros que strictement entre Israël, le Hamas, donc en Palestine. Et un des joueurs qu'on disait, bon, on pourrait attaquer du côté de l'Iran, bon, il y a le Hezbollah au Liban. On en parlait moins depuis quelques semaines. En fait, on était surtout inquiet de la situation humanitaire à Gaza. Mais on parlait moins de ce risque d'embrasement régional. Mais depuis deux, trois jours, c'est revenu et en force. Même la compagnie aérienne Lufthansa, compagnie allemande aérienne, a stoppé, arrêté tous ses vols vers Téhéran, vers l'Iran. Et même chose du côté du gouvernement français. On a envoyé un avis aux voyageurs de ne pas se rendre notamment en Iran. Et donc, on dit, on est, plusieurs disent, là, on est peut-être la plus proche qu'on pense d'un conflit là où l'Iran s'en mêlerait, donc qui deviendrait ni plus ni moins potentiellement une guerre entre l'Iran et Israël. On va tout de suite en parler avec Sami Aoun. Monsieur Aoun, bonjour.
Bonjour, Monsieur Durand.
Vous la craignez, cette possibilité-là?
Oui, certainement, surtout après l'attaque contre le consulat iranien à Damas et après avoir neutralisé au moins une génération des officiers iraniens qui étaient déjà formés par l'ancien généralisme Qasem Soleimani que les Américains ont assassiné il y a encore 2 ans. Alors pratiquement, oui, c'était une humiliation assez importante pour les Iraniens. Le fait que le guide iranien, M. Khamenei, a déjà dit que Israël va recevoir une gifle et que c'est impossible de ne pas punir Israël. Alors à ce moment, on voit que le ton monte et il y a quand même une fièvre qui pousse encore plus. Nous sommes peut-être à quelques heures d'une certaine réplique iranienne, mais peut-être les consultations diplomatiques, les navettes diplomatiques même, je dirais, est en train de la rendre moins théâtrale comme celle réplique pour venger le général Soleimani. Alors, à cette fois-ci, il y a plusieurs possibilités ou options devant le régime iranien. S'il va aller dans une guerre ouverte ou plutôt une frappe mesurée, encadré et quand même avec une certaine entente sous la table peut-être avec les Américains. Et ici, le régime iranien a besoin de sauver sa face, a besoin de réhabiliter sa crédibilité puisqu'il a toujours utilisé ce qu'on appelle la guerre de procuration. Il a utilisé ses forces mandataires miliciennes, Hezbollah, les milices chiites et aussi le Houthi, et avec sa connexion avec Hamas, qui est quand même assez importante. Alors ici, il a besoin de dire, non, je suis crédible, c'est vrai que j'ai pas appliqué ce qu'on appelle l'unité des fronts quand il y a eu le 7 octobre et l'invasion israélienne de la bande de Gaza. Mais à ce moment-ci, je suis touché directement et je dois répondre directement. Alors ici, on va voir quel genre de réplique il va mettre en application.
On parle de, comme on dit, réplique. Là. C'est cette attaque d'Israël contre le consulat iranien à Damas, en Syrie. Qu'est-ce qu'Israël visait? Là? Qu'est-ce qu'Israël a voulu faire et pourquoi ça mériterait telle réplique?
Oui, c'est venu dans une période où Israël était un État provocateur. Elle appliquait une politique de provocation contre le Hezbollah pour l'amener en guerre, peut-être pour recréer un nouvel ordre sur les frontières libano-israéliennes. Et simplement pour peut-être activer une dynamique américaine pour mettre en ordre ce qu'on appelle la résolution 1701 et que le Hezbollah se retire vers le fleuve Litani à peu près 40 kilomètres. Mais cette fois-ci, Russie. Ils ont touché directement les Iraniens pour provoquer encore plus. Et maintenant, les Iraniens sont dans cette posture de répondre à la provocation israélienne. Mais généralement, le régime iranien a une très bonne lecture de le 7 octobre et l'après 7 octobre. Il comprend que les Israéliens sont dans une posture de guerre existentielle, donc ils ne vont pas accepter de retourner à l'avant 7 octobre et ils ne vont pas accepter qu'il soit le cas, surtout dans la bande de Gaza, que le Hamas, parrainé par l'Iran, reprenne le pouvoir et reprenne certainement la gestion de la bande.
Est-ce qu'une guerre, parce que là, bon, on parle d'une réplique de l'Iran à ce qui s'est passé à l'ambassade à Damas, on parle pas au consulat, pardon, à Damas, on parle potentiellement bon, d'Israël qui pourrait répliquer à la réplique. Comment vous évalueriez, les risques que tout ça devienne une véritable guerre, là, une guerre ouverte en bonne et due forme entre Israël et l'Iran? Est-ce que ce scénario-là existe? Est-ce qu'il est trop pessimiste?
Non, à vrai dire, ça dépend de la nature de la frappe iranienne. Si c'était, par exemple, par des drones dans des territoires ouverts, comme on les appelle, et on épargne les grandes villes israéliennes et ne touche pas des bases militaires sur le territoire israélien, peut-être limitrophe, via le Golan ou via, par exemple, le Negev, alors à ce moment, ça devient mesuré et limité. Et si jamais les Iraniens vont utiliser soit des missiles balistiques, soit quand même beaucoup de drones et d'autres peut-être possibilités de frapper des roquettes par les alentours d'Israël, à ce moment, la réplique israélienne peut être aussi mesurée, mais ça pourrait être une occasion pour tester la puissance iranienne et frapper peut-être le cœur de ce que les Iraniens ont jalousement toujours protégé, le projet nucléaire. À ce moment, les Américains, et on l'a remarqué dans les dernières heures, sont très solidaires avec les Israéliens. Ils ont dépassé leur divergence avec M. Netanyahou en tant que personne. Et maintenant, on revient à une alliance stratégique israélo-américaine très solide. Les Américains vont envoyer des renforts et certainement, ils vont aider les Israéliens à bien surveiller les activités iraniennes. Et sur ce point, les Israéliens ont un bon système de défense, ou c'est ce qu'ils prétendent au moins, et les DOM et d'autres, par exemple, comme la fronde de David, mais aussi, il ne faut jamais sous-estimer la puissance de nuisance de l'Iran. Et l'Iran certainement va essayer de toujours protéger le Hezbollah, parce que le Hezbollah, c'est leur joyau de la puissance iranienne, et ils ne veulent pas le sacrifier facilement, malgré que le Hezbollah aussi a une forte puissance de nuisance, mais la guerre devient à ce moment très destructrice, et pour le Hezbollah, et pour le Liban certainement.
C'est pour réfléchir à la stratégie iranienne, il ne faut pas penser comme chez nous ou comme un État régulier où il y a une seule armée en bonne et due forme. C'est comme s'il y a l'armée iranienne, mais à côté, l'Iran finance plein de bras, de milices, de bras armés qui sont, dans le fond, qu'ils envoient en avant, là, qu'ils envoient en action pendant que leur propre armée officielle reste en retrait.
Vous avez bien raison, depuis quarantaine d'années, les Iraniens ont monté ce qu'on appelle vraiment des tentacules. Des tentacules qui viennent de Houthi, le Hezbollah, les milices chiites en Iran et même en Syrie. Quand il n'y avait pas de Syriens qui feraient des milices pro-iraniennes, ils ont apporté des Afghans et des Pakistanais. Alors, sur ce point, oui, les Iraniens ont réussi beaucoup, de façon, je dirais, même géniale au niveau militaire, de créer des mandataires qui, en leur nom et selon leurs directives, pouvaient s'engager dans des guerres ou faire des attentats, suicides ou autres, contre les Israéliens et contre les Américains et les Occidentaux en général.
Double question, ces gens-là, par exemple, quand on dit que le Hezbollah travaille là, par en arrière pour l'Iran. Est-ce que l'Iran les paye? Est-ce que ces gens-là sont comme des milices salariés? Est-ce que l'Iran leur paye juste du matériel ou leur paye aussi une espèce de compensation ou un salaire? Et double question, est-ce que ces gens-là, est-ce que le Hezbollah prend ses ordres officiellement de l'Iran?
Oui, alors sur un point le plus essentiel, c'est pas le matériel, c'est le lien organique au niveau idéologique. Le Hezbollah paye une allégeance idéologique à toute la révolution khoméniste, à la personnalité de Khamenei et adopte à peu près tous les fondements de la vision khoméniste iranienne. Sur ce point, ils ne sont pas des mercenaires en ce sens. Mais encore, au niveau militaire, oui, ils sont financés totalement. Et qu'on a vu maintenant que, par exemple, au niveau de l'armement de Hezbollah, les Libanais n'ont pas payé aucun sou pour ça. C'est-à-dire, c'est tout est livré par l'armée iranienne ou Faylaq al-Quds particulièrement. Et l'autre point aussi, il y a des salaires parce que à peu près le Hezbollah pourrait s'en charger, mais on sait très bien que M. Nasrallah, le secrétaire général de Hezbollah, l'a très bien dit, je suis un soldat dans l'armée de Khamenei. Alors sur ce point, il n'y a pas vraiment à quoi s'en douter que le Hezbollah lui-même n'a pas cette conviction profonde idéologique comme dans les islamismes radicaux généralement, mais aussi que oui, il est quand même, pour les critiques, on dit qu'il est simplement un petit bataillon dans l'armée iranienne. Au moins, c'est la perception de ces critiques.
En conclusion, comment vous, la décision, par exemple, du transporteur aérien, quand même un géant là, du transport aérien, Lufthansa, l'allemande, qui se rend plus en Iran, vous l'interprétez, vous, comme la prudence de gens bien informés qui veulent pas se retrouver dans une guerre, qui veulent pas faire atterrir leur avion entre les missiles?
Oui, vous avez bien raison de le dire, parce que aussi les Iraniens ont certainement fait preuve d'une certaine ambiguïté assez importante pour faire une pression psychologique sur Israël. Ça, c'est clair que les Israéliens sont quand même sous forte pression en ce sens. Et en même temps, ils sont en train de négocier, surtout avec les Américains, quelle est la porte de sortie de cette crise. Et si jamais il y a une confrontation, comment on pourrait chercher peut-être une entente politique de façon que les Iraniens certainement gardent et sauvegardent leur rôle comme acteur régional, une superpuissance régionale, il faut le dire, les Iraniens, mais en même temps, on va voir quelle serait la réplique israélienne, parce que si jamais la réplique israélienne va être, par exemple, une frappe électromagnétique ou d'autres façons de frapper, certainement les aviations étrangères seraient vraiment à risque dans cette période.
À surveiller, donc on nous dit même dans les 24-48 prochaines heures, il pourrait y avoir du mouvement sur ce front. Sami Aoun, directeur de l'Observatoire du Moyen-Orient, la chaire Raoul d'Endurant, merci.
Merci à vous.